Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, nous nous concentrons sur la personne et l'enseignement de Jésus-Christ.
Aujourd'hui, nous allons discuter sur le thème « Jésus et les démons ». La dernière fois, nous avons réfléchi sur la rencontre entre Jésus et Satan dans le désert. Ce dernier soumit le Fils de Dieu à de très fortes tentations, afin de faire échouer les desseins du Seigneur. Oh, Jésus sortit de ces tentations plus que vainqueur. Toutefois, Satan est toujours à l'œuvre dans le monde et il parvient à semer la confusion et la destruction partout où il règne. Robert est ici pour nous en parler et surtout pour évoquer ce que la vie de Jésus nous apprend sur cet état de choses.
Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'activité des esprits mauvais et de l'influence qu'ils peuvent avoir dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous interdit formellement tout contact avec le monde des esprits mauvais, car si nous faisons appel à eux, nous prouvons que nous n'avons pas placé notre confiance en l'Éternel. De plus, toute personne désireuse d'entrer en contact avec ces esprits court de très graves dangers.
Puisque nous parlons des évangiles et de la vie de Jésus, pouvez-vous nous citer des cas montrant comment les esprits peuvent se manifester?
Dans les évangiles, nous lisons souvent que des personnes sous l'emprise d'esprits mauvais étaient amenées à Jésus. Ces personnes étaient possédées par des démons et étaient tombées sous leur influence.
Mais comment se manifestait cette influence? Comment, à cette époque, reconnaissait-on qu'une personne vivait sous une telle emprise?
Selon les évangiles, les démons ont une influence sur la vie morale et l'équilibre mental d'une personne. Toutefois, certains cas semblent montrer qu'un démon peut aussi affecter la santé physique d'une personne.
Pouvez-vous vous expliquer davantage?
Lorsque je parle de vie morale, je veux dire que les démons peuvent inciter des personnes à avoir un comportement mauvais et excessivement destructeur. En parlant d'équilibre mental, je veux expliquer que les démons peuvent pousser des personnes à avoir des comportements associés à la folie. Écoutons une description donnée sur une telle personne dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné, et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et les brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Il s'agit là d'un cas extrême. Cette personne est très perturbée. Elle désire se blesser. Elle semble même investie d'une force surnaturelle incroyable. Cet homme vit à l'écart de tous. Il n'a plus de contact avec ses égaux, ne vit plus de relations authentiques avec eux. Il n'est plus maître de lui-même. Ne vous faites pas d'illusions. Tomber sous l'emprise des démons est une chose effroyable qui vous mènera droit vers la catastrophe.
Mais aujourd'hui, comment discerner si des personnes sont soumises à l'influence des démons?
Je conseille la sagesse. Toute maladie ne trouve pas son origine dans l'influence des démons. Tout problème de santé mentale n'est pas non plus dû à l'activité d'esprit. De même, tout esclavage à un péché n'est pas forcément directement lié aux esprits. Là où des manifestations surnaturelles existent, clairement, nous pouvons fortement penser à l'activité d'esprits mauvais.
Vous avez cité le cas tout à l'heure à partir de l'évangile de Marc, de cet homme très perturbé. Pourquoi en est-il arrivé là? Les évangiles relatent que beaucoup de gens venaient auprès de Jésus pour chercher à être délivrés de l'influence d'esprit dans leur vie. Mais comment sont-ils tombés sous leur pouvoir?
Nous devons admettre que les évangiles ne nous apprennent rien sur l'origine du problème de chacun. Mais ils mettent plutôt l'accent sur la solution à ce grave problème.
Mais si nous voulons nous-mêmes éviter de tomber sous de telles emprises, comment faire?
J'ai déjà averti nos auditeurs que la Bible interdit tout contact entre les hommes et les esprits. On peut supposer que si ces personnes étaient tombées sous l'influence d'esprits, c'est qu'elles avaient dû désobéir au commandement de Dieu à ce sujet.
Pouvez-vous alors nous rappeler quelles sont les pratiques condamnées par les commandements?
Oui, ces pratiques se rencontrent malheureusement de façon courante dans nos sociétés. En voici une liste non exhaustive. La voyance ou la consultation de voyants et de médiums en vue de connaître ou d'influer sur son avenir ou celui d'un autre. La sorcellerie ou la consultation d'un sorcier en vue de régler un problème ou de maudire un ennemi. Il faut préciser à ce sujet que même en croyant accomplir le bien par le biais de la sorcellerie, l'homme n'en récoltera que des conséquences catastrophiques. La pratique de l'idolâtrie, tous les efforts effectués dans l'espoir de manipuler de faux dieux en sa faveur. Chercher à entrer en contact avec les morts en vue d'acquérir leur sagesse ou leur influence dans nos vies.
Donc si une personne se livre à de telles pratiques et souffre de troubles mentaux ou comportementaux, il est possible qu'elle soit tombée sous l'influence d'esprits maléfiques.
Oui.
De même, une personne ayant eu recours à des pratiques occultes et se trouvant exposée à des situations bizarres ou des manifestations surnaturelles est probablement attaquée par les puissances du mal.
Oui, mais je ne veux pas trop m'attarder sur ces faits. Il faut les énumérer pour prendre conscience des dangers, mais je voudrais surtout orienter nos auditeurs vers celui qui apporte la délivrance, le Seigneur Jésus.
Revenons donc à l'évangile de Marc et au cas de l'homme cité tout à l'heure. Il a rencontré Jésus. Que s'est-il passé?
Souvenez-vous de l'état misérable de cet homme et écoutons maintenant comment il se comportait suite à sa rencontre avec Jésus. Ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait saint d'esprit.
Il s'agit là d'un changement radical. Au début du texte lu, nous rencontrons un homme très perturbé et absolument asocial. Oh, à la fin de ce récit, son attitude reflète la paix. Comment cela s'est-il produit?
Ce changement s'est produit grâce à l'intervention de Jésus-Christ. Car le Seigneur a eu pitié de cet homme et parce que Jésus est puissant, il a chassé les démons qui le harcelaient et réduit à néant leur influence sur lui. Ayant reçu une telle délivrance, cet homme peut vivre à présent normalement.
Pour ceux qui, de nos jours, vivent sous l'emprise d'esprits mauvais, est-il possible de recevoir une pareille délivrance?
Toute délivrance efficace viendra de Jésus et de lui seul, car lui seul peut vaincre le mal. Toute délivrance est un don de sa grâce, et nous avons l'assurance que Jésus est compatissant et miséricordieux. Il écoute la prière de tous ceux qui viennent à lui. Et voici la bonne nouvelle annoncée par Jésus, telle que nous la trouvons dans l'évangile de Marc. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Et en quoi ce verset est-il pertinent pour ceux qui subissent une influence démoniaque?
Jésus annonce qu'en sa personne, le roi sauveur promis par les prophètes est dorénavant présent parmi les hommes. Ensuite, tout homme et toute femme se repentant de ses péchés et croyant en lui recevra son salut selon ses besoins. Les personnes aujourd'hui sous l'emprise de démons ont besoin d'être sauvées de leur pouvoir maléfique. Et pour entrer dans le salut offert par Dieu, il faut passer par la repentance et avoir la foi en la toute-puissance et la grâce de Jésus-Christ.
Et qu'implique la repentance dans le cas?
Il leur faut confesser toute pratique occulte ou contact avec le monde des esprits qui pourrait être à l'origine de leurs problèmes et y renoncer.
Merci Robert. Nous espérons que nos discussions ont pu vous avertir sur les dangers de toute tentative d'entrer en contact avec le monde des esprits. Nous vous encourageons à placer votre confiance en l'Éternel et non dans les pratiques séductrices et trompeuses du mal. Y en a-t-il parmi vous qui se trouvent déjà dans un engrenage de mal et de malheur à cause d'une pratique occulte quelconque? Nous voulons vous offrir cette espérance formidable qu'en Jésus, une issue est possible. Jésus peut délivrer de l'emprise du mal tout homme et toute femme qui vient à lui. Jésus est le grand vainqueur. Il est notre libérateur. La gloire de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Voici le titre de notre série de méditations bibliques. Ce titre s'inspire d'un passage de l'évangile de Jean, Chapitre 1, verset 14, que voici.
Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité.
Notre invité Yuva est de retour parmi nous pour nous conduire dans nos méditations. Bonjour Yuva.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Lisons aujourd'hui Jean chapitre 1, versets 3 et 4. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes.
La dernière fois, nous avons appris que celui qui est nommé la parole a tout créé. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'en lui réside la vie. Comment comprenez-vous ce verset ?
Nous retrouvons ici l'idée du Créateur. Toutefois, plus de précisions sont apportées. La parole n'a pas simplement créé les éléments inanimés comme les rochers ou l'eau. Elle a aussi créé les êtres vivants. Elle est véritablement la source et l'origine de la vie. Sans la parole créatrice de Dieu, il n'y aurait ni plantes, ni animaux, ni même êtres humains.
Beaucoup aujourd'hui pensent que la vie est le résultat du hasard, le fruit de réactions des processus chimiques, la conséquence de l'évolution. Qu'en dites-vous ?
Beaucoup de scientifiques affirment ces choses, mais lorsque l'on étudie leur raisonnement de près, leurs propos s'avèrent mal fondés. De nos jours, de plus en plus de scientifiques admettent qu'un créateur doit être à l'origine de cette merveille que nous appelons l'univers. La science est le produit d'hommes faillibles et imparfaits. Tous nous sommes limités, même le plus doué d'entre nous. Nous ne pouvons donc pas tout comprendre et par là même, nous ne devons pas faire entièrement confiance à la science. Par contre, avec une totale confiance, nous pouvons remettre nos vies à Dieu, qui dans sa grâce a choisi de révéler la vérité aux hommes. Il est normal de se poser des questions sur nos origines. Nous pouvons nous demander d'où venons-nous ? La Bible nous donne des réponses à ces questions, car celui qui était présent à l'origine de toutes choses et qui est lui-même la source de toutes choses veut se révéler aux hommes. Si aujourd'hui nous jouissons de ce cadeau merveilleux de la vie, c'est parce que Dieu et son Fils sont à l'origine de toutes choses. Or, son Fils nommé la parole dans l'évangile de Jean, et plus tard connu en la personne de Jésus-Christ.
Merci Yuva de nous avoir aidés une fois de plus à contempler la gloire de Jésus-Christ, celui qui nous a donné la vie.
Nous remercions Robert et Yuva pour leur contribution enrichissante. Nous espérons aussi vous retrouver bientôt pour découvrir davantage l'enseignement de Jésus et apprendre à le connaître.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.